Bulle d'histoire.
Hein ?
Stéphane Dubreuil.
Waouh !
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées. Bonjour à tous, il est 10h30 sur Art District Radio et l'on retrouve Stéphane Dubreuil avec son émission Bulle d'Histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Julie, et aujourd'hui c'est la 20e Bulle d'Histoire.
Oh, wow.
Donc c'est quasiment un petit verre de champagne.
Et oui, exactement.
Pour ce début janvier 2020. Et aujourd'hui je reçois Rachel, on ne dira pas son nom, elle s'appelle Rachel, mais surtout elle dirige les éditions Nada, dont on va parler pendant cette bulle d'histoire. Mais avant de parler des éditions Nada, Rachel, qui êtes-vous ?
Alors bonjour, merci Stéphane pour l'invitation. Donc je m'appelle Rachel, mon nom c'est Rachel Vinet-Krupa, je veux bien le dire quand même. Et je co-anime les éditions Nada. Les éditions Nada, on les a créées à deux. Avec David Doyon en fin 2013. Et on est une maison d'édition qui s'inscrit sur le terrain de la critique sociale et qui a pour volonté de diffuser des idées libertaires. On est très intéressé par l'histoire, on publie beaucoup d'essais sur l'histoire, on publie aussi des essais sur l'actualité, des textes d'intervention qui vont avoir une résonance avec l'actualité, et on ne pouvait pas oublier dans notre production, on avait très très envie aussi de faire de la bande dessinée. Alors déjà parce qu'on est des gros lecteurs de bande dessinée et que c'est un art complet à part entière qu'on avait envie de valoriser dans notre catalogue, et pour nous c'était aussi une façon de toucher un autre public, de diffuser des idées par un autre médium, par un autre biais, parce que parfois les essais, surtout les essais politiques, les essais théoriques, ben ça peut être un petit peu ardu, ça peut faire peur, et la bande dessinée permet de faire passer tout ça de manière un petit peu plus, j'ai pas envie de dire légère, mais en tout cas de la rendre plus accessible, plus attrayante finalement.
Oui, c'est léger, mais c'est profond. On va parler un peu de votre catalogue de bandes dessinées, parce que donc dans Bulle d'Histoire, on parle beaucoup de bandes dessinées historiques.
Oui.
Là, c'est des bandes dessinées historiques, mais c'est surtout, j'allais dire, des bandes dessinées qui ont fait l'histoire.
Exactement.
Et notamment l'histoire de la contre-culture américaine.
Oui.
Donc ça peut être paradoxal de parler de libertarisme ou d'anarchie avec la contre-culture américaine. Comment marche l'articulation entre les deux ?
Alors je dirais pas tout à fait, pas libertarisme, plutôt d'idées libertaires ou d'anarchisme. Le continent américain, tout le continent américain a quand même été une terre propice aux idées libertaires depuis toujours. Le mouvement libertaire trouve ses racines aussi aux États-Unis. C'est vrai qu'on est très attiré par le continent américain, et je ne mettrai pas ça aux États-Unis, puisque moi-même j'ai fait une thèse, et une thèse qui était consacrée au Mexique. Donc c'est vrai qu'on regarde beaucoup vers les États-Unis, mais pas que. Et j'ai fondé ma culture BD en lisant beaucoup d'auteurs américains. Ce qui fait que j'en lis beaucoup, je vais regarder beaucoup ce qui se passe par là-bas, et que mine de rien, sur des sujets tels que le féminisme par exemple, les États-Unis, le Canada sont quand même à l'avant-garde de ce courant.
Donc on va parler des BD proprement dites, mais il y a deux choses que je voulais évoquer avec vous, ces deux recueils que vous avez publiés.
Oui.
Un qui s'appelle Wooblies et l'autre qui s'appelle Bohemians.
Oui.
Des recueils que j'apprécie énormément, où j'ai découvert des auteurs que je connaissais pas. J'ai redécouvert des auteurs que je connaissais, parce qu'on connaît les Crumb, on connaît tous ces gens-là. C'est des BD à la fois politiques, très engagés, graphiquement, politiquement, mais qui ont aussi une influence très grande sur la BD européenne, la BD française. Je pense à Fluide Glacial, par exemple.
Oui.
Même à Goscinny et à Astérix. Toute cette BD très, très étrange pour nous,
oui.
a influencé notre culture visuelle. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous parler de ça, de cet échange entre les deux continents?
Alors, sur l'échange entre les deux continents, j'aurais plus de difficultés, enfin, par rapport à Woobleez et par rapport à Bohemians, à répondre à votre question, parce que moi-même, en tant qu'éditrice, je n'ai pas forcément eu conscience de ça, enfin, je ne me suis pas forcément posé cette question-là, quand j'ai décidé de signer pour ces deux titres. Par contre, ce que je peux faire, c'est vous parler de ces deux titres.
Ah ben, volontiers, parce que c'est très étrange. On n'est pas du tout habitué en France, sauf les gens très cultivés dans ce genre de bande dessinée qui est un vrai genre. Parlez-nous de ces BD qu'il faut absolument découvrir, parce que c'est un continent inconnu pour nous.
Alors, c'est vrai que ça peut... On savait qu'il y aurait une certaine difficulté de réception du public pour Bohemians et pour Woobleez. Non pas par les sujets qui sont traités. Bohemians, en fait, c'est une histoire sur un siècle des avant-gardes artistiques aux États-Unis. Et Woobleez, c'est une histoire des luttes sociales aux États-Unis, qui couvre également un siècle. La difficulté que représentaient ces deux bandes dessinées, c'est que ce sont des ouvrages collectifs, donc qui réunissent plusieurs auteurs de BD qu'on qualifie d'underground aux États-Unis. Et les ouvrages collectifs, en France, ont pas très très bonne presse. C'est compliqué, en fait, de faire accepter aux lecteurs une variété, une diversité graphique. Ces deux ouvrages ont été coordonnés par Paul Bull. Paul Bull, qui est aussi, alors qui est un historien, un universitaire, historien spécialiste de l'histoire populaire des États-Unis, qui avait également coordonné l'adaptation en bande dessinée de l'histoire populaire des États-Unis, qui est un essai phare hein, de Howard Zinn sur l'histoire américaine, mais vue par en bas. Comme son sous-titre l'indique, une histoire populaire, et qui a été adapté en BD par Konopaki, qu'on va retrouver également dans Woobleez. Et Paul Bull a réussi à réunir tout un pool d'auteurs en leur proposant à chacun, en fonction de leur affinité, de leur centre d'intérêt, de traiter d'un épisode soit de l'histoire culturelle, donc de la contre-culture américaine, des avant-gardes artistiques, soit de l'histoire sociale. Et il a, pour créer l'unité, pour donner, harmoniser le tout, rédigé des introductions à certains chapitres pour recontextualiser les courtes bandes dessinées qu'on va pouvoir lire.
Oui, parce que pour nous, c'est presque incompréhensible, en fait. C'est très compliqué d'en saisir tous les enjeux, en tout cas.
Ouais, cette façon de traiter, en tout cas, la bande dessinée, ouais, c'est quelque chose qui est assez original pour le lecteur français. Cela dit, on a été très surpris de la réaction du public. En tout cas, l'accueil a été très très bon, que ce soit l'accueil des libraires ou des lecteurs. Woobleez, qui est sorti au mois de mai, parce que on voulait absolument la voir pour le 1er mai, et pour le Salon du Livre Anarchiste de Montréal, auquel on participe tous les ans, qui a lieu fin mai, puisque les Woobleez sont très très actifs encore sur le continent américain, donc on voulait apporter aux lecteurs québécois la version française de Woobleez, a reçu un très très bon accueil. Je pense aussi que le contexte social de l'année 2018, de l'année 2019, a aussi joué. Les lecteurs se posent des questions et vont peut-être pouvoir les trouver dans des bandes dessinées comme les nôtres, en tout cas, j'espère.
Alors, il y a deux autres bandes dessinées qui résonnent avec l'actualité, même si on n'est pas non plus pile poil dans cette actualité. C'est les deux biographies de deux femmes américaines, oui, dessinées par Peter Bagg.
Oui.
On a parlé déjà de Fire dans le dernier club Art District.
Oui.
Donc, Peter Bagg, vous allez nous en parler, mais c'est surtout deux biographies de femmes. Donc, c'est de la bande dessinée féministe. On peut dire ça comme ça.
On peut dire ça comme ça. Après, peut-être que... en tout cas, oui, c'est de la bande dessinée, oui, féministe. Je ne sais pas si elle-même se réclamait... En tout cas, pour Zora Neale Hurston, je ne suis pas sûre qu'elle se serait réclamée féministe. En tout cas, pour Margaret Sanger, là, clairement,
oui. Il y a une dichotomie entre les personnages et la façon de raconter leur vie.
Oui.
La façon de raconter leur vie, on sent que le dessinateur les admire énormément.
Ah oui.
Il est éperdu d'admiration pour ces deux femmes.
Et pourtant, il n'en fait pas une hagiographie. Il ne passe pas sous silence non plus le fait, les facettes les plus sombres de leur personnalité, le fait qu'elles aient toutes les deux, donc deux femmes libres, qui avait deux combats distincts, mais qui étaient prêtes à tout pour arriver à leur fin.
Oui, elles ne sont pas spécialement sympathiques.
Non, il ne les rend pas spécialement sympathiques. On sent que lui est fasciné par ses personnages, par ses deux vies de lutte, ses deux parcours de lutte. Mais voilà, il y a une fascination, il y a une affection, mais qui n'en fait pas pour autant des personnes lisses.
Est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement la vie de ces deux femmes?
Bien sûr.
Parce que quand on lit les livres, on est, je trouve, comme l'auteur, éperdu d'admiration devant ces femmes, parce qu'on ne les connaît pas. C'est quand même des femmes d'un courage extraordinaire, d'une intelligence, d'une opiniâtreté politique assez hors pair.
Alors, je vais commencer par vous parler de Femmes Rebelles. Donc, Femmes Rebelles qui raconte l'histoire de Margaret Sanger. Margaret Sanger, c'est une des pionnières du féminisme aux États-Unis. Donc là, on peut clairement le dire. C'est la créatrice du planning familiale. Elle a lutté toute sa vie pour le droit des femmes à disposer de leur corps. Femme rebelle, le titre de la bande dessinée de Peter Bagg fait référence à un journal, Woman Rebelle, qui est un journal qu'elle a édité pour pouvoir diffuser aux États-Unis des informations, des conseils sur la contraception. À une époque où aux États-Unis, parler de contraception, c'était considéré comme de la pornographie et c'était passible de prison. Donc toute sa vie, elle va lutter pour que les femmes, et plus particulièrement les femmes pauvres, puissent avoir accès à des moyens contraceptifs, ne serait-ce qu'à savoir, en fait, à être consciente de comment on pouvait éviter d'avoir des enfants, alors que les femmes riches, et il y a quelque chose qui s'inscrit là vraiment sur le terrain de la lutte des classes, hein, alors que les femmes riches avaient accès à toutes ces connaissances-là, savaient à quel médecin s'adresser, mais pas les femmes pauvres. Donc elle vient quand même d'une famille de 11 enfants, je crois, donc bon, son histoire personnelle, son histoire familiale l'a particulièrement marqué. Et puis, dans le cadre de Fire, qui raconte l'histoire de Zora Neale Hurston, elle est écrivaine, elle est essayiste, elle est anthropologue. Elle est née en 1891 en Alabama. C'est la figure de proue d'un mouvement qui s'appelle la Renaissance de Harlem. Et alors, c'est un mouvement qui couvre en fait tout le champ artistique, à la fois la musique,
faut dire qu'elle est noire,
la littérature, le jazz, effectivement, et le courant de le mouvement de la Renaissance de Harlem, dont le texte manifeste a été publié dans une revue qui s'appelle Fire, et donc là, Peter Bagg s'est inspiré du nom de cette revue. Eh bien, le but de ce mouvement, c'était de faire reconnaître la culture, l'identité de la culture africaine-américaine aux États-Unis. L'objectif de ces artistes, donc qu'ils soient écrivains, qu'ils soient artistes plasticiens, qu'ils soient musiciens, c'était d'imposer, de montrer en fait qu'il y avait une culture africaine, américaine propre et qu'il n'était pas forcément utile pour eux de s'exprimer de la même façon que les auteurs blancs.
Et juste pour venir sur Art District, c'est une radio qui passe beaucoup de jazz.
Oui.
Donc cette femme a été un peu une anthropologue de la musique noire américaine, notamment du blues, où elle dit, je crois, que le blues est la plus belle chose qui
Exactement.
Ait jamais été inventée aux États-Unis.
Elle accompagne Lomax, alors Lomax fils, pour collecter. Alors elle collectait pas de la musique parce que Lomax père et Lomax fils l'ont déjà fait, mais elle a fait toute une enquête de terrain avec Lomax pour elle. Alors ce qu'elle cherchait à récolter en tant qu'anthropologue, c'était des éléments sur le folklore africain-américain du sud des États-Unis. Et plus particulièrement sur le vaudou. Elle a consacré toute une partie de ses recherches à la culture vaudou. Elle-même a été intronisée en tant que prêtresse vaudou. Oui, et il y a des passages mais qui sont savoureux dans la bande dessinée.
Absolument.
Où on montre comment donc du coup elle intègre ce milieu-là, comment elle devient prêtresse en mangeant et en suçant des os de chat. Et désolé pour ceux pour les amoureux des animaux, hein,
on aime beaucoup les chats.
On est dans le
vaudou aussi, donc
on est dans le vaudou. Oui, effectivement. Zora Neale Hurston, ce qui l'a rendu surtout célèbre plus que ses travaux d'anthropologue, ce sont ses romans. Ces romans qui, en français, ont été traduits et viennent d'être retraduits, en tout cas pour son roman phare, qui s'appelle « Leurs yeux dardés sur Dieu », par les éditions Zulma. Romans qui ont été fort critiqués, à la fois par la critique blanche, mais aussi par la critique noire aux États-Unis, parce que pour la première fois, dans des romans, elle faisait parler les Africains-Américains.
Comme ils parlaient, en fait.
Exactement comme ils parlaient, ouais. Elle utilisait, en fait, la langue vernaculaire qui était utilisée, et ça a été très, très, très mal reçu par la critique. Cela dit, Toni Morrison a dit d'elle que c'était certainement la plus grande écrivaine du XXe siècle.
Donc, ces deux livres qui sont dessinés par le même auteur, il faut absolument les lire parce que ça se lit aussi comme des romans. C'est pas juste des biographies de personnes célèbres et remarquables. C'est rigolo, il y a plein de rebondissements parce qu'il y en a qui ont des amants, elles ont des histoires de cœur. Il leur arrive des tas de trucs. Donc, voilà, on suit les péripéties de ces deux biographies. C'est assez jubilatoire.
Et vous faites bien de le dire, Stéphane, que c'est parce que c'est drôle, effectivement, c'est des parcours de lutte, hein, c'est des vies de lutte, mais le traitement qu'en fait Peter Bagg est extrêmement drôle. Il y a presque une unité par planche, et presque chaque planche se termine par une sorte de gag. Il a en plus un style extrêmement expressif. Ces personnages qui sont très, très élancés, très étirés, un peu des personnages chewing-gum, qui sont extrêmement expressif et qui apporte beaucoup de dynamisme au récit.
On va parler d'autre chose, une autre facette de votre maison d'édition, qui est la création, parce que Peter Bagg, c'est des choses que vous publiez, vous traduisez.
C'est de l'achat de droits.
Mais vous avez aussi une politique, j'allais dire, de jeunes auteurs, même si ça veut presque rien dire de dire ça. En tout cas, on va dire ça comme ça. Vous avez publié un album dont on a parlé dans Bulle d'Histoire, qui est la biographie de Fréhel, par un auteur remarquable, qui s'appelle Jean Gélouis. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre politique, pourquoi vous avez choisi cet auteur, cette histoire aussi, et quels sont vos projets ?
L'année dernière, on a pour la première fois publié un auteur et suivi un auteur en création, ce qui a été une aventure passionnante. Alors, comment ça s'est passé ? Il s'avère que Joanne Gélouis nous a contactés, on a découvert dans notre boîte mail son projet, et on est tombé, mais carrément dingue. Enfin, on est tombé amoureux de son dessin. On l'a tout de suite contacté, on l'a rencontré, et après être tombé amoureux de sa proposition, de son style, on est tombé amoureux de lui, parce que c'est lui aussi un personnage. Et Fréhel, on peut pas la qualifier à proprement parler de libertaire, ni de féministe. En revanche, ce qui nous a intéressé dans le personnage de Fréhel, dont on appréciait déjà beaucoup les chansons, c'était ce côté aussi de femme libre, en fait, qui n'a fait aucune concession ni au système ni à la société, et qui a toujours privilégié la vie, l'amitié, l'amour, l'alcool et toutes les autres d'autres drogues qu'elle consommait. Alors Fréhel est une chanteuse réaliste qui est née, alors, comme Zora Neale Hurston, en 1891, mais à Paris, elle, qui est la génération, qui marque la génération avant Piaf. Alors Fréhel, moi, je la connaissais pas directement par ses enregistrements, je la connaissais par ses reprises, parce que Fréhel, elle a été reprise par beaucoup de chanteurs, hein, d'artistes français, hein. Ça va de Gainsbourg à Dao a repris Fréhel, Bachung a repris Fréhel, Renaud a repris Fréhel. Mais moi, du fait du milieu un peu où je viens, c'est les Garçons Bouchers. Je connais Fréhel par les Garçons Bouchers, qui avaient consacré un album aux reprises de Fréhel qui s'appelait Si mes souvenirs sont bons, ma mamie est une punk. Parce que Fréhel, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, on peut la qualifier de proto-punk d'une certaine façon, parce que c'est une artiste, c'est une énorme star. Alors, elle était non seulement chanteuse, mais elle était aussi comédienne, et qui a brûlé la vie par tous les bouts, qui a fait des tonnes d'excès. Et vraiment, ouais, c'est ce parcours de femme libre qui nous a touchés, qui nous a intéressés, et aussi l'aspect très, très social de ses textes, de ses chansons, qui racontent la vie des quartiers populaires d'un Paris qui n'existe plus, mais qui a toujours une résonance aujourd'hui.
Son dessin est absolument remarquable, c'est très élégant, c'est intelligent, ça s'adapte parfaitement à cette vie très dure par une sorte de contraste. J'allais dire, ça amène beaucoup de légèreté, parce que la vie de Fréhel est assez terrifiante.
Alors, il a tout travaillé à l'ancienne. Ces 280 planches réalisées à l'aquarelle, les traits à la main, Il a fait énormément de recherches. Il y a un an de recherche hein, avant de se lancer dans cette bande dessinée, parce qu'il y a très très peu de choses qui existent sur Fréhel. C'est d'ailleurs extrêmement étonnant vu la vie incroyable qu'elle a vécu. Hein. Johan, il a non seulement ce talent de dessinateur, et il a réussi à rendre compte dans cette BD d'une certaine gouaille. Des titis parisiens de la belle époque, quoi.
On s'est presque tout dit, mais avant de se quitter, on est début janvier, je crois que vous avez des publications, des nouvelles bandes dessinées qui vont arriver dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots, trois mots, quatre mots?
Alors, là aussi, ce sera une création, alors avec non pas un jeune auteur, avec un auteur qui est un petit peu plus confirmé, qui s'appelle David Snug, qui a déjà 14 BD à son actif, essentiellement aux éditions Même Pas Mal, que je salue pour nous avoir accepté de nous le prêter, pour donc un projet. Là, on a vraiment travaillé avec David Snug sur quelque chose qui nous tenait à cœur, mettre en relation les thématiques qui nous intéressent en sciences sociales avec la bande dessinée. Et on lui a proposé un projet, on a créé ensemble un projet autour d'une critique du travail en bande dessinée. Donc à travers son propre parcours d'auteur, donc lui, après des études d'art plastique, eh bien, il se retrouve à devoir aller travailler à l'usine comme son père. Donc il y a la question du déterminisme social, il va d'abord travailler dans une usine de camembert, puis chez Moulinex, puis chez Renault, enchaîner des tas de petits boulots, des rendez-vous humiliants en agence d'intérim, chez Pôle emploi. Donc il va nous raconter ça à la David Snug, c'est-à-dire que lui, son créneau c'est plutôt assez humoristique, mais on a voulu que ça soit extrêmement documenté, donc on a fait postfacer cette BD par un sociologue spécialiste de la critique du travail. Il a beaucoup, beaucoup lu, donc il y a plein de références à des textes, par exemple, comme Le droit à la paresse de Paul Lafargue, comme Moi, travailler jamais de Bob Black. Donc voilà, on a pris beaucoup de plaisir à le faire. On espère que les lecteurs prendront beaucoup de plaisir à la lire. On fait le lancement en janvier, donc à Angoulême, et elle sortira en février en librairie.
Eh bien, on attend ça avec impatience. Je vous remercie, Rachel.
Merci à vous.
Et à bientôt.
À très bientôt.
Merci beaucoup, Stéphane. C'est la fin de l'émission Bulle d'Histoire. Et on se retrouve la prochaine fois.
Dans 15 jours.
Dans 15 jours. Ouais. Même heure, même endroit.
Normalement. À bientôt.
Merci, à bientôt, Stéphane. Merci, Rachel.
Bulle d'Histoire. Bulle d'Histoire avec Stéphane Dubreuil.
Waouh.
Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.